émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Je sais pourquoi je suis là. Au début, je disais que c'était faux. Et maintenant, je suis puni. Je leur dis rien. Jacques lui demande, « Que voulez-vous que l'on fasse d'autre ?» Et puis tout le monde sait que lorsque l'on a de la peste, on finit en four. Enfin, ce n'est pas de cette destinée dont je rêvais lorsque j'étais jeune.
Ils ont fait la vaisselle, il l'a essuyée. Elle lui dit,
nous ressemblons tous les deux à un vieux couple comme ça.
Et il rit tous deux. Puis il lui dit en la quittant,
vous êtes un vrai collègue efficace.
Elle lui demande, comme ça?
Il ne lui dit rien et la quitte.
Les gens ont peur lorsqu'ils se sentent mal. Ils n'osent pas faire venir le médecin. Mais comme la famille a peur, elle le fait venir. Avant que le service d'hygiène vienne, pour pas être mis en quarantaine, certains partent. Lorsque le médecin arrive, le malade lui dit
« Vous allez m'amener à la mort !»
Le médecin, après avoir ausculté, prévient les autorités pour prendre le malade qui est mené dans un mouroir et mettre les gens qui vivaient avec lui en quarantaine. Les gens qui sont restés. Malade effrayé à peur écrit
« Non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas qu'on me brûle !»
Le médecin appelle les hommes, on prend le malade pour le mettre dans un camion en ne lui disant rien. C'est terrible. La plupart des gens qui ont la peste sont surtout des personnes démunies qui vivent dans des conditions très pauvres, dans des taudis humides, sans sanitaire et que deux pièces pour toute la famille. Ils n'ont pas de travail. La plupart du temps, la peste s'attaque aux plus faibles de la famille, c'est-à-dire aux personnes âgées ou aux enfants. Comme tout le monde sait que c'est une maladie qui est très contagieuse, on a peur. Et malgré les supplications du malade, malgré sa fièvre et sa faiblesse, il comprend ce qu'il a et ce qui va lui arriver. Il supplie la famille de ne pas appeler les autorités. Mais la famille appelle les autorités. Mais avant que le médecin ne vienne constater la maladie, les membres de la famille décident de quitter les lieux et de se cacher pour ne pas être mis en quarantaine. Car les gens qui sont mis en quarantaine aussi risquent la peste et puis en étant en quarantaine, ils ne sont plus rien, ils n'ont plus de logement et le peu d'argent qu'ils ont, on le leur prend. Il y a moins de gens qui travaillent en Europe. Même pour les soins, on manque de personnel. C'est-à-dire que les médecins, les services soignants tombent aussi malades. Les personnes surveillent les logements qui sont vides de leurs habitants pour cause de mort, de quarantaine, pour les vider, revendre au marché noir ou passer en faute dans les ports pour vendre la marchandise en Afrique du Nord ou du Sud. Ils font ça comme pour les voitures. Car malgré que la navigation soit interdite, comme tous les transports qui va à l'étranger, la nuit des bateaux réussissent à sortir du blocus et aller dans les pays pour revendre leurs produits volés. Même certains bateaux reviennent au petit matin remplis de produits des pays où ils sont allés. Tout ceci est fait des fois avec la complicité des douaniers et militaires. Plus la discipline est stricte, plus les interdits sont nombreux et plus il y a des gens qui sous-doient la loi. On a beau expliquer aux gens que c'est pour leur bien, rien n'y fait. Jeanne est de plus en plus sous l'emprise de David. Lui en profite à fond. Des fois, elle se rend compte de sa folie et elle lui refuse ce qu'il demande comme un bateau de plaisance. Fou de rage, il lui dit « Garce ! Garce ! Tu es riche, tu peux bien faire ce cadeau !» Et lui dit timidement « Non, je ne peux pas !» Alors il devient furieux et lui donne des gifles. La fait tomber à terre. Hop ! Il donne des coups. Il ne se retient plus, ne cherche plus à jouer le mandin, le bel homme intelligent. Mais il reste sans masque. Il n'a plus de masque, c'est-à-dire qu'il est un homme violent, vulgaire, sans respect. De guerre-là, c'est aussi parce qu'elle en peur. Elle lui dit « D'accord ». Il ne la remercie même pas. Une fois qu'il a son chèque, il part comme ça. Oui, il part comme ça, en claquant la porte. Elle a beau se dire que c'est un homme froid, mais chaque fois qu'il lui dit qu'il va la quitter, elle craque. Marie entend tout ça. Elle le répète au fils Albert, qui lui commence à voir rouge. Un jour que Jeanne refuse de lui donner la somme qu'il demande, la plupart de sa fortune est dans son testament pour son fils et son petit-fils surtout, Adrien, s'il revenait. Et en plus, elle a fait un gros don à David dessus. Ce qui lui reste est pour qu'elle vive décemment. Si elle donne trop d'argent à David, elle risque d'avoir des ennuis financiers. Et puis elle lui a déjà donné de très grosses sommes et se dit que peut-être que ça doit suffire. Comme il voit qu'elle hésite à lui donner de l'argent, alors, il fonce sur elle. Et là-bas,
qu'est-ce que je te dis ? Mon père ! Persiste-le ! Tu feras ce qu'il te demande, tu feras tout ! Persiste-le ! Tu feras ce qu'il te demande, tu feras tout ! Tout ! Tout !
Puis, il la quitte. En la laissant dans un tel état, que Marie est obligée de téléphoner au docteur Ambert. Le docteur arrive, auscule Jeanne dans sa chambre. Elle est allongée et lui demande « Qui vous a fait ça ?» Jeanne lui dit « Personne !» n'insiste pas. Il se dit que c'est une histoire de famille. Trouve ça très étrange et se demande s'il ne veut pas prévenir les autorités. Mais non, parce que Jean est une personnalité très importante. Cyril, malgré que ses études ne soient pas finies, est envoyé au séminaire de Paris parce qu'à Lyon, il n'y a plus de place. On lui a fait prendre le train pour aller là-bas. Il va se rendre compte que les curés au séminaire de Paris sont des gauchistes. Oui, le séminaire est tenu par des gauchistes. Le séminaire est une grande bâtisse grise qui ressemble plutôt à une prison. En arrivant au séminaire, il va se présenter au supérieur, très intimidé, parce que le lieu lui semble triste et sombre. C'est le concierge, un homme petit, chauve, qui le met au bureau du supérieur. Il lui fait suivre un long couloir très sombre, avec de nombreuses portes, et au bout du couloir, il y a une grande porte en bois.
Le concierge a frappé à la porte. Il m'a dit, entrez. Le concierge entre et fait entrer Cyril. Il se trouve dans un bureau, un grand bureau, avec tout autour une bibliothèque qui va jusqu'au plafond. Et assis à son bureau, un homme, grand, maigre, l'air sec, cheveux blancs, habillé en costume de ville. Le concierge lui dit, « Monsieur, je vous amène le nouveau. » Le supérieur se soulève et dit, « Approchez-vous. » Cyril s'approche. Le supérieur lui dit, « Je suis supérieur de cet établissement. Cela ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes en autogestion. » Ce que vous allez apprendre ici, c'est l'humanité, la charité et être un homme de bien, c'est-à-dire un homme de gauche. Car le rôle de l'Église est de faire en sorte à ce que les gens sur Terre puissent vivre d'une façon décente. Nous vous prenons dans cet établissement tout en sachant que vous avez eu des études très précaires. C'est un peu par charité. Il faudra faire beaucoup d'efforts. Les personnes qui sont ici sont d'un milieu plutôt, disons, de culture de gauche et leurs parents sont pour la plupart des enseignants. Quelles sont vos idées politiques ? Cyril ne sait quoi dire. Alors il dit, je ne sais pas. Le supérieur lui dit, je vois. Lorsqu'on n'a pas d'idées politiques, cela veut dire que l'on est de droite. Ici, nous ne voulons pas des personnes de droite. Parce que ce sont des fascistes. Cyril est rouge de honte. Il pensait qu'on allait lui poser des questions sur la religion. On lui pose des questions sur ses idées politiques, il ne sait plus. Le supérieur lui dit, nous vivons une époque très dure, et ceci à cause de ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire les capitalistes. Ce sont eux qui ont détraqué la terre et ont créé la sécheresse. Pour la peste, c'est la même chose. Il soupire et dit, Bon, vous pouvez amener ce jeune homme au dortoir. Cyril est très déçu, mais ne le montre pas. Il est mené au dortoir. C'est une grande pièce avec une cinquantaine de lits de chaque côté. À côté de lits, des lits, il y a une petite armoire. Le concierge lui montre son lit et son armoire et lui dit « Rangez vos affaires, ensuite vous pourrez descendre à la récréation. » Et il le laisse. Cyril, seul, commence à ranger ses affaires. Et la vie commence pour lui dans cet établissement. Vie triste, monotone, il n'y a rien de très religieux. On parle surtout d'idées de gauche. On parle même du mariage des prêtres pour éviter la pédophilie. Cyril parle à son voisin de droite de cette histoire de mariage des prêtres et de la pédophilie. C'est un garçon un peu plus jeune que lui, maigre, le visage osseux, les cheveux blonds, de grands yeux bleus tristes. Il s'appelle Baptiste. Baptiste lui dit, le mariage ne résout rien parce qu'ils sont comme ça et que ça les empêche pas de faire des choses sur les enfants. La plupart de ces actes sont faits à 90% dans le milieu familial. Taper sur les prêtres catholiques parce que la religion catholique est à l'agonie, c'est tirer sur une ambulance. Pour ce qui est de ce problème, c'est toute la société qui est touchée. Que ce soit au bas de l'échelle qu'au plus haut. Dans l'enseignement, lorsqu'un enseignant est pris, il est déplacé et on ne dit rien. Pour les éducateurs et les animateurs, c'est la même chose. Ce que l'on reproche aux prêtres, on peut le reprocher à toutes les classes, même aux autres religions. Et puis attaquer exclusivement la religion catholique, c'est cacher la forêt. Un prêtre marié peut plus facilement cacher son crime à l'intérieur de sa famille et même des fois avec la complicité de sa femme. Ça, c'est vu. Cyril réfléchit et se dit qu'il a raison et se dit qu'un prêtre est plus coupable parce qu'il représente Dieu et doit donner l'exemple. Mais l'enseignant aussi. Cyril se sent mal à l'aise avec ses enseignants gauchistes. Et puis la vie est dure aussi dans le séminaire, qui manque de nourriture, d'eau. Et la maladie apparaît chez eux aussi. Le service d'hygiène les met en quarantaine. Le séminariste et le personnel, mais ils doivent rester dans l'établissement. Puis la maladie augmente, il y a de moins en moins de professeurs, de moins en moins de nourriture, la discipline se relâche, et là, on voit le vrai visage des gens. On pense même que le séminaire, le diable l'a envoûté. Les élèves s'initient les uns aux autres.
L'on se dit que l'on va mourir. Pourquoi ne pas en profiter? Cyril se défend, refuse ces choses. On lui dit qu'il faut en profiter avant de mourir. Et qu'il a voulu rentrer ici, donc il doit vivre comme tout le monde. Cyril leur dit, la mort n'est rien pour un chrétien, car la personne a la vie éternelle, que la vie terrestre n'est rien, que le plaisir sur terre ce n'est rien, que certains plaisirs nous dégradent, et l'on risque de passer l'éternité en enfer. Et puis, il faut vivre selon les préceptes de Dieu. Mais non, ce qui compte pour ces jeunes, c'est le temps présent. Et puis ils ont tellement été en manque, et le corps demande des choses qu'ils avaient des difficultés à refuser. Et il n'y a personne pour les aider. C'est un professeur qui reste, et le directeur de l'établissement ne pense qu'à la politique et non aux préceptes de Dieu. On dit toujours dans les leçons, qu'il faut que la vie sur terre soit la meilleure possible pour le bien de tous. Alors, avec ces idées-là, comment peut-on vivre chrétiennement, respecter son corps et le corps des autres? Cyril est à bout. Au bout de quelque temps, décide de quitter tout ça. Il se dit que ça ne sert à rien de vivre dans un milieu pareil. Comme ils sont en quarantaine, et que toutes les issues sont fermées, mais à l'intérieur de l'établissement, comme il manque de surveillants et de professeurs, les élèves sont plus libres d'aller et venir. Il attend qu'on vienne les ravitailler. Comme il n'y a personne qui peut aider pour décharger le camion. Ce sont pour la plupart du temps les séminaristes qui le font. Est arrivé. Alors Cyril décharge avec d'autres séminaristes des cajots de provisions. Une fois que la chose est faite, il se cache derrière la porte. Attend que le chauffeur aille signer son papier de livraison et pendant qu'il est au bureau, comme il a laissé la porte de derrière du camion ouverte, il entre à l'arrière du camion et se cache derrière les cajots vides. Il attend anxieux. Attend que le chauffeur vienne et entre dans le camion, puis mette le camion en marche. Voilà le chauffeur qui rentre dans le camion et met le camion en marche. Le camion file dans la ville. Cyril ne sait pas où il va. Puis, tout d'un coup, le camion s'arrête. Il entend le chauffeur sortir du camion. Il attend un peu sur la camionnette, mais ne peut pas sortir de la porte arrière qui est fermée. Alors il décide de passer par l'avant, du côté du chauffeur. Il réussit à passer en sautant sur le siège à côté du chauffeur,
Une fois qu'il se trouve sur le siège, il ouvre la portière du camion. Vite, il sort. Il voit que le chauffeur s'est arrêté dans une petite rue en face du bistrot. Vite, il se met à courir. Il a eu de la chance. Il court au hasard dans les rues. Comme il voit que personne ne lui court après, il se met à marcher normalement. Il est parti sans rien. Il se trouve dans une ville qui empeste, pleine de poussière grise, avec un soleil de plomb, chaleur étouffante. Tout est sans vie. Il voit passer sans arrêt que les services de santé, ambulances, services d'hygiène, pompiers, police, armées. Où les immeubles sont vides et certains même ont été brûlés pour cause d'hygiène. Cyril voit tout ça et se sent obligé de ranger les murs de peur d'être pris. En plus, il fait une chaleur insupportable. Ciel de plomb. Aucune fraîcheur, rien, bien au contraire. Les rues semblent vides d'habitants. Il ne circule que les voitures officielles des sanitaires. Les voitures sont garées, pleines de poussière. On dirait qu'elles sont abandonnées. Il n'y a pas de car, rien. On voit quelques personnes à vélo. Personnes à vélo sont maigres, tristes, pleines de poussière, des vêtements déchirés, des corps de poussière grise. Pas d'animaux, rien. La plupart des magasins sont fermés. Il croise quelques personnes, maigres, sales, tristes, sont là qui attendent devant les boutiques. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore eu la peste et qui ont le droit de circuler. Lorsque Cyril passe devant certains immeubles, il entend derrière les fenêtres closes les gens qui demandent à manger. Ils sont en quarantaine et ne peuvent sortir. Le service d'hygiène n'a pas pensé à les ravitailler, car comme il y a trop de personnes qui sont en quarantaine, quelquefois on leur fait faire la quarantaine chez eux. Cyril n'a rien. Il est parti sans rien. Mais comme il est bien habillé pour le moment, alors on lui demande. Il a honte. En passant devant un clodo qui est assis à terre avec des cheveux longs, blancs, visage sympathique, il lui demande « T'as pas une petite pièce ?» Cyril lui dit « Je n'ai rien, je me suis sauvé du séminaire. » Clodo lui dit « Tu risques d'avoir des ennuis comme ça. Les gens vont chercher à t'attaquer. » Parce qu'ils vont croire que tu as de l'argent. Mais enfin, tes vêtements vont vite se tacher. Cyril trouve le clodo sympathique. Alors il s'assoit près de lui. Ils passent la journée avec lui. Lorsqu'ils ont faim, ils vont faire les poubelles.
Le clodo lui dit « Nos concurrents sont les rats. Ils vont se coucher tous les deux dans les allées. Cyril reste plusieurs jours avec le vieux. » Couche dans les caves, les greniers. Il fait plus frais que dehors, mais il faut faire attention aux rats qui s'attaquent aux hommes. En passant devant un marchand de journaux, Cyril voit en couverture Jean et David. Le Claude lui dit « Elle a voulu se payer un gigolo. » Lui se la paye en se vendant des milliards. Cyril rit, se souvient de rien. La chaleur l'après-midi, il reste assis sur un banc. À force de faire les poubelles, de dormir n'importe où, ses vêtements se tachent et même se déchirent. Il devient comme les autres. Il se demande ce qu'il va pouvoir faire. Il voit une affiche qui demande des volontaires pour aider les services sanitaires. Je dis pourquoi pas, ce sera utile. Alors il note l'adresse. Ça se trouve dans une école qui fait le service sanitaire pour le recrutement pour les mairies. Il y a beaucoup de jeunes qui demandent parce que ces jeunes se disent qu'ils pourront au moins manger. On le fait passer par différentes personnes qui lui posent des questions sur ses études, ses maladies, s'il vit seul, où il habite. Il répond qu'il n'a pas de domicile, etc., etc. Ensuite, on lui fait passer une visite médicale, puis il est passé devant un homme qui lui dit qu'il est accepté au service de la clinique du docteur Rambert qui se trouve vers le parc Monceau. On lui donne une lettre de recommandation. Il demande où se trouve la clinique et il va. Intimidé, il rentre dans la clinique. Va à l'accueil. Une jeune femme blonde, blouse blanche, dans les 25 ans, l'air sympathique, lui demande « Vous désirez, jeune homme ?» Il lui dit « J'ai été accepté pour aider. » Il lui donne la lettre. Elle la lit et lui dit « Bien, monsieur, je vais faire venir le responsable. » Elle prend son téléphone. Allô, c'est l'accueil. Nous avons une personne pour le service sanitaire. Bien, monsieur. Elle dit à Cyril, on va venir vous chercher. Arrive à lui un homme fort, en blouse blanche, en 35 ans, cheveux blonds, blond, l'air sympathique. Arrivé vers Cyril, il lui dit, « C'est vous qui venez pour les sanitaires ?» Cyril lui dit, « Oui, monsieur. » La femme de l'accueil donne à l'homme la lettre que Cyril lui a donnée. L'homme la lit, il dit, « Très bien. Vous allez venir à mon bureau, jeune homme, je vais vous inscrire et vous dire le travail que vous avez à faire. » Cyril suit l'homme. Et Cyril est embauché comme garçon de salle. On lui fait balayer, laver les sols, apporter les repas et aider les soignants. Il sera blanchi et nourri. Ce sera le seul salaire qu'il aura. On lui fait visiter les salles et les chambres qu'il aura à s'occuper. C'est le service du docteur Rambert et d'Elisabeth. Cyril est content, pourra manger à sa faim. Il commence à travailler avec un chariot, un balai et une serpillière. Il va dans les endroits où il est responsable de la propreté des chambres, des couloirs. À 12 heures, il sert les plateaux aux malades. Il s'aperçoit très vite que les malades sont en très mauvais état. Ils sont maigres, fiévreux, ont des ganglions, peuvent à peine parler. Cela lui fait de la peine et durant son travail, il regarde le moins possible les malades. À 12h30, il y a une pause pour manger. Il mange ce que l'on donne aux malades. Il mange dans le couloir. Assis sur une chaise, son plateau sur ses genoux. Ce qu'il mange n'est pas très bon, mais c'est nourrissant. Il s'aperçoit c'est que le personnel hospitalier ne fait pas attention à lui. Il est comme invisible. Cela l'arrange. Le travail ne lui est pas trop pénible. Malheureusement, il y a un problème. C'est le logement et où dormir. Alors il a une idée. C'est en cachette, après son travail, de dormir dans le local à des pots de linge. La personne n'y va. Il n'y a que lui qui y va parce que c'est lui qui ramasse le linge sale. Donc, il couche dans cette pièce, ça ne sent pas très bon et c'est très chaud. Il couche sur le linge, plutôt sur la pile de linge. Se dit que c'est mieux que dormir ici que de dormir dans une allée. Les jours passent. Il y a beaucoup de morts. Lui a toujours le balai à la main. De temps en temps, Recardier lui fait un signe pour lui dire bonjour. Un jeune homme de taille moyenne, dans les 30 ans, il est fort, cheveux châtains, visage sympathique. Le brancardier lui demande si ça va ou s'il n'aimerait pas faire autre chose. Cyril lui dit « Non, ça peut aller ». Le brancardier lui dit que lui aimerait être magasinier. Il en a marre de transporter les morts. Petit à petit, ils sympathisent et ils prennent leur repas à 12h30 ensemble. C'est la seule personne qui parle à Cyril. Le brancardier, qui s'appelle Nicolas, demande qu'est-ce que tu fais, toi, avant d'être ici? Cyril lui dit gêné, j'étais au séminaire. L'autre lui dit, c'est pas vrai, un curé? Cyril lui dit, non, séminariste. J'ai quitté tout ça parce que je me sentais pas bien avec eux. Nicolas lui dit, t'as eu raison. À la clinique comme dehors, tout marche comme prévu. Toute la société aussi s'est adaptée à la peste. elle s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Les gens acceptent bien ce nouvel ordre de vie qui est plus simple qu'avant. Les malades sont soignés et le four. Et les autres, la quarantaine, voilà tout. Un matin, Rambert visite les malades et dans une des chambres, il y a Cyril qui balaye. Pendant que Rambert auscute son malade, Cyril fait tomber son balai, ce qui fait tourner les yeux du médecin qui le voit. En le voyant, il est surpris. Il est comme hypnotisé par Cyril. Il se demande où il a vu ce beau garçon, parce qu'il est sûr de l'avoir vu. Alors malgré lui, il pense souvent à lui et sans arrêt tourne autour de lui. Cyril ne fait pas attention. Dans ses promenades matinales, il se souvient que cette jeune garçon qu'il a rencontré un matin et qu'il croyait qu'il avait assassiné une personne dans un parking. Le lendemain matin, arrivé à la clinique, il ne le trouve pas. Rambert aimerait demander où il est, mais sous quel prétexte? Et une fois qu'il le saura, que fera-t-il? Et un jour où il visite la clinique pour faire l'inventaire, il va dans le local où linge sale. C'est là où on le met avant de nettoyer. Là, il tombe sur Cyril, endormi, allongé sur les paquets de linge. Rambert est ému. Il le regarde. Cyril se réveille d'un bond. Voit le médecin, il se met debout. Le médecin lui demande « Qui êtes-vous et que faites-vous là ?» Cyril lui dit gêné parce qu'il a peur d'être envoyé. « C'est mon jour de congé. » Le médecin lui demande « Pourquoi ne pas dormir chez vous ?» Cyril lui dit gêné, parce que ce n'est pas de chez moi. Le médecin, toujours pris par le jeune homme, s'apprête à s'en aller, puis malgré lui, lui dit, attends-moi, attendez-moi, je vais vous mener à un endroit où vous pourrez vous reposer tranquillement. Je viendrai vous chercher lorsque j'aurai fini ma visite. Cyril hésite. Partir ou rester va être mené en prison. Et puis il se dit que s'il part, ça risque d'être la même chose. Il perd son travail. Alors il reste. Deux heures plus tard, le médecin vient le prendre. inscrit se demande où il va le mener. Il n'ose pas lui poser de questions. Le médecin l'amène à sa voiture, le fait entrer. Cyril a très peur, car il pense que le médecin va le mener au commissariat. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet et Rebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.